Culture Média.
Philippe Vandel.
Trump sur les réseaux, le retour. Mercredi, Meta annonçait que l'ancien président et futur candidat aux prochaines élections présidentielles américaines était de nouveau autorisé à utiliser Facebook et Instagram 2 mois après Twitter. 2 ans après l'assaut du Capitole qui lui avait valu ses suspensions, tout semble donc effacé et le spectacle peut reprendre. Et là, on se pose la question, est-ce là le respect de la pluralité des idées ou alors une volonté un peu cynique de capitaliser sur le business de la colère pour ces réseaux en difficulté financière. Pour en parler, Thomas Huchon, bonjour.
Bonjour Philippe.
Vous êtes à distance avec nous, vous êtes journaliste d'investigation, prof à Sciences Po, spécialiste des fake news et co-auteur de Anti-Fake News aux éditions First. Vous êtes à distance parce que vous avez eu un heureux événement dans votre famille.
Eh ouais, effectivement, ouais, ouais. À chaque fois que je viens vous voir, il faut croire qu'il y a quelque chose de sympa qui se passe dans ma famille.
Ouais, il faut dire ce qui s'est passé à la naissance de votre premier enfant.
Bah, c'était le lendemain de la défaite de Donald Trump en 2020. C'était le petit Achille qui était arrivé et dont vous aviez mentionné le nom. Et là, c'est une petite fille.
Le prénom en primeur. Alors, comment s'appelle-t-elle cette petite fille qu'on salue?
Elle s'appelle Isée et j'espère qu'elle ne sera ni sur Facebook ni sur Instagram.
Catherine Gentil, le débat déjà posé. Catherine Gentil, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à l'international, éditorialiste à l'international, mais aussi journaliste sur TF1 et sur LCI, ancienne reporter de guerre, prix Albert Londres. Vous avez été correspondante de TF1 à Washington pendant la présidence de Donald Trump, donc vous l'avez observé de près. Je vais commencer avec vous, à votre avis. Qu'a ressenti Trump à cette annonce de Meta, le retour de ses comptes Facebook et Instagram? Une jubilation, un esprit de revanche?
Les deux, mon général. Ah. Je pense qu'il a été absolument ravi et qu'effectivement, il a eu le sentiment de tenir sa revanche. Parce que, évidemment, depuis qu'il avait été banni, il considérait que c'était la plus grande des injustices, que ça faisait partie du grand complot qui voulait justement le repousser de la scène politique américaine, l'entraver dans sa volonté de se présenter à la prochaine présidentielle. Mais en même temps, ça va lui enlever un argument, parce que justement, depuis qu'il avait été banni des réseaux sociaux, il expliquait que c'était le complot précisément contre lui et que donc il fallait faire masse derrière lui, qu'il fallait le soutenir et qu'il fallait lutter contre tout ce marais, comme il l'appelle, washingtonien, c'est-à-dire le pouvoir à la Maison-Blanche et ailleurs, pour redonner au peuple qu'il est censé représenter, justement, le pouvoir. Donc là, il ne va plus pouvoir jouer là-dessus. Mais voilà, en tout cas, il va être content.
Il ne peut plus se victimiser.
Exactement.
Thomas Huchon, en revanche, vous, cette décision des GAFA vous met en colère, parce que ce n'est pas une décision uniquement de Meta, mais il y avait aussi celle de Twitter précédemment.
Mais effectivement, on a eu un petit peu au moment du mois de novembre, hein, quand Elon Musk, le nouveau patron de Twitter, a décidé de réinstaller Donald Trump sur sa plateforme. C'était un peu le fait du roi. C'est-à-dire qu'on sent bien que Elon Musk fait un peu ce qu'il veut, quand il veut, sur sa plateforme. C'est un peu son joujou. Là, c'est une décision qui est un peu différente. À la suite de tout un tas d'événements liés à la désinformation, au complotisme, à des actions violentes aux États-Unis menées à la suite de contenus qui circulaient sur Facebook, Facebook a été un peu obligé de créer un comité de surveillance indépendant. Et en fait, là, c'est ce comité de surveillance indépendant qui a recommandé à la plateforme de Mark Zuckerberg de réinstaller Donald Trump. Donc, c'est pas une décision qui est un peu, je dirais, un peu foutraque comme celle qu'a pu prendre Elon Musk et dont on connaît ni vraiment les motivations ni les intérêts. Mais là, on voit que c'est quand même une vraie décision de gens qui ont pesé le pour et le contre. Et en gros, leur critère, c'est de dire que Donald Trump devait être banni à la suite des incidents du Capitole sur lesquels nous reviendrons peut-être.
Exactement, on va en revenir.
Ce bannissement devait être limité dans le temps. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, on ne pouvait pas le condamner ad vitam aeternam, alors que tout un tas d'autres gens pensent le contraire. J'en fais partie. Il faut dire que Donald Trump a quand même incité certains citoyens américains à réaliser un coup d'État sur le Capitole début 2021 et qu'il s'est servi de Facebook pour le faire.
Ouais, Thomas Huchon, vous avez tweeté ceci. Encore une mauvaise décision des GAFA, comme si on n'avait pas déjà assez de problèmes. Les plus gros diffuseurs de fake news, le plus gros diffuseur de fake news aura donc son hyper mégaphone pour manipuler les foules. Et là, j'ai envie de vous demander, pas de liberté pour les ennemis de la liberté ou alors pas de liberté pour les défenseurs autoproclamés de la liberté?
Ben, en fait, le problème de Donald Trump, c'est qu'il brouille toutes les cartes et toutes les pistes. C'est quand même celui qui a prononcé 4% de propos vrais durant l'année 2016, qui est celle qui lui a permis d'accéder à la présidence américaine. Et en même temps, c'est celui qui utilise le plus le terme de fake news pour désigner les journalistes sérieux, professionnels aux États-Unis. Donc déjà, il crée une espèce d'univers dans lequel plus rien n'a de sens. Et en fait, le vrai problème qui se pose aujourd'hui, c'est pas tant est-ce que Donald Trump a la liberté de s'exprimer. Il a la liberté de s'exprimer. Il a accès à tous les médias quand il le souhaite. Et il peut dire absolument ce qu'il veut. La question, c'est est-ce que ce personnage respecte les conditions d'utilisation de ces plateformes ? Ou alors, est-ce que les plateformes pour Donald Trump créent un espèce de double standard où il lui permettrait à lui de diffuser des fausses informations qui incitent à la violence ou à des comportements sanitaires complètement dingues, hein. On se rappelle quand même qu'il suggérait l'idée de boire de l'eau de Javel, hein, contre le Covid-19.
Pardon de rire, mais je me souviens de ça. Ouais.
Mais voilà.
Alors, pour comprendre la situation actuelle, pardonnez-moi, je voudrais qu'on entende et qu'on revienne au début, aux prémices. Pour comprendre la situation actuelle, il faut revenir 2 ans en arrière. Donc, Catherine Gentil, vous étiez à Washington le 6 janvier 2021. Vous êtes en train de préparer un sujet pour le 20h lorsque vous entendez ceci.
We will never give up, we will never concede. We're going to walk down to the Capitol.
Nous n'abandonnerons jamais, nous ne concéderons jamais, nous allons nous rendre au Capitole. Catherine Gentil, quand vous entendez ça, vous êtes en train de préparer un sujet, vous êtes avec votre JRI, vous dites quoi ? Que Trump est devenu fou, que c'est le début d'un coup d'État ?
Oui, je me souviens, on y était donc pour TF1 et LCI avec Mathieu Derrien, hein, le JRI, le caméraman de TF1. Et je me souviens que là, on s'est quand même regardé en se disant, ils viennent passer une ligne rouge. Alors, évidemment, on n'a pas du tout imaginé que les gens allaient prendre d'assaut le Capitole, mais on s'est dit effectivement qu'ils jetaient de l'huile sur le feu, c'était le moins qu'on puisse dire. Mais vraiment, on n'avait pas imaginé que ça allait se passer parce que jusque-là, c'était plutôt une manifestation bon enfant. Il y avait des familles avec des poussettes, etc., etc. Mais dire publiquement qu'on contestait le résultat de la présidentielle de la première démocratie du monde, là, c'était vraiment un énorme choc. Parce qu'on ne pensait pas quand même qu'il irait jusque-là, même si évidemment, c'était la petite musique des jours qui venaient de s'écouler. Et là, c'était effectivement, pour un président des États-Unis, c'était absolument stupéfiant.
L'assaut du Capitole n'aurait pas été possible sans Twitter, sans Facebook. Comment Trump a utilisé ses réseaux ?
Ben, il les a utilisés d'une manière très simple. Il avait des dizaines de millions de followers, donc il suffisait qu'il envoie un message pour que ça se répercute comme une onde de choc. Mais moi, je suis pour qu'il revienne sur les réseaux sociaux,
ah oui, pourquoi ?
Contrairement à Thomas. Mmh. Mais parce que d'abord, sinon il faudrait interdire à tous ses followers d'être sur les réseaux sociaux, parce que c'est un très bon exemple ce qui s'est passé le 6 janvier. C'était un meeting, c'était la bonne vieille école du meeting où vous avez l'homme politique devant ses sympathisants qui tient un discours et qui justement, accessoirement, dit c'est inadmissible, on est en train de voler notre victoire, etc. Donc, même s'il n'avait pas, lui, dit sur les réseaux sociaux, tous les gens qui étaient là l'auraient évidemment diffusé. Donc, de toute manière, il faudrait sinon bannir toute une partie de la population américaine des réseaux sociaux, parce que ça n'arrête pas les messages qui sont diffusés de cette manière. Et ils pensent la même chose que Donald Trump. Et quand en plus vous le bannissez, Donald Trump, il utilise ce que je disais tout à l'heure, cet événement, pour dire qu'il est une victime et que vraiment il faut que ses sympathisants soient encore plus déterminés pour défendre, entre guillemets, la démocratie américaine. Donc je pense que c'est symboliquement, effectivement, interdire Donald Trump, c'est quelque chose de puissant, mais dans la réalité, je pense que ça ne sert pas à grand-chose parce que ses idées continuent à être diffusées largement dans l'opinion publique américaine.
On est au cœur de notre sujet. Faut-il ou non interdire les réseaux sociaux à Donald Trump ? Vous ne pensez pas comme Thomas Huchon, ça tombe très bien, on marque une courte pause, on va entendre la réponse et les arguments de Thomas Huchon. Culture Média continue, à tout de suite.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
Notre info média du jour, Trump autorisé à utiliser Facebook et Instagram 2 mois après avoir été autorisé à utiliser à nouveau Twitter. Ça faisait suite, ces interdictions, ces bannissements, évidemment, après l'assaut du Capitole. Catherine Gentil, ici, est notre invitée éditorialiste à l'international sur TF1 et LCI. Et Thomas Huchon, journaliste et prof à Sciences Po et spécialiste notamment des fake news. Catherine Gentil estimait, contrairement à vous, Thomas Huchon, que c'est pas forcément une mauvaise chose que Trump soit autorisé à revenir sur les réseaux sociaux. Vous avez entendu ces arguments, je ne vais pas les résumer. C'est pas une émission de débat ici, mais que répondez-vous à ces arguments ? Pourquoi, selon vous, est-ce une mauvaise chose que Trump puisse revenir sur les réseaux sociaux ?
Déjà, je veux dire que je partage une partie de l'analyse de Catherine et que je respecte bien entendu totalement son immense expérience de la politique américaine. Je crois qu'il y a quelque chose qui a un petit peu changé aux États-Unis, mais dans le reste des pays du monde, c'est que ces outils numériques comme Facebook, Twitter, Instagram, que nous utilisons toute la journée, ils modifient la manière dont se diffuse l'information. Et le problème, c'est pas tant que Donald Trump y ait ou non une tribune, c'est que les algorithmes qui donne de la visibilité au contenu, c'est-à-dire ce qu'ils vont faire en sorte que vous allez voir passer telle ou telle information sur Facebook ou sur Instagram, eh bien ils vont plutôt avoir tendance à pousser les contenus un peu outranciers, qui incitent à la colère, à l'indignation, qui jouent sur nos émotions, comme les fake news de Donald Trump, que la contradiction de ces mensonges. C'est plutôt dans cette logique-là qu'il se passe quelque chose. Après, il y a quand même quelque chose qu'il faut rappeler dans cette situation aux États-Unis. Pourquoi Twitter réinstalle Donald Trump? Pourquoi Facebook réinstalle Donald Trump? Eh bien, grosso modo, il y a une espèce de nouvelle concurrence que nous, on voit pas très bien en France parce que ces réseaux n'ont pas beaucoup de visibilité dans notre pays, mais aux États-Unis, il existe des réseaux sociaux d'extrême droite. Ils s'appellent Gab, Parler ou Truth Social. Truth Social, dont Donald Trump est lui-même actionnaire et l'un des fondateurs. C'est quand même assez cocasse d'appeler Truth Social, donc la vérité sociale, un réseau pour Donald Trump qui est quand même le champion des fake news.
Pardonnez-moi, c'est le principe. Hein. La Pravda, ça ne dit pas que la vérité.
Je suis d'accord
et la Corée du Nord, la Corée du Nord se prétend un régime démocratique. C'est souvent en antiphrase qu'on raisonne dans ces moments-là.
Exactement, c'est d'ailleurs le conseil qu'on donne dans les écoles. Quand ton journal vous dit, il s'appelle la vérité, eh bien vous pouvez être à peu près sûr qu'il vous ment. Il n'y a absolument aucun doute là-dessus, comme un régime qui se prétend démocratique par définition est souvent une dictature qui se cache.
Alors attendez, je reviens à votre argument, Thomas. Thomas Duchamp, je reviens à votre argument. Vous dites qu'il y a des nouveaux réseaux qui se lancent, et donc les réseaux sociaux, j'allais presque dire à l'ancienne, Twitter et Facebook sont obligés de riposter.
Mais oui, parce que comme Catherine le disait, il y a énormément de gens qui soutiennent les idées et les fake news diffusées par Monsieur Trump. Et ces gens-là, ben ils ont un petit peu migré de Facebook, Twitter et Instagram vers d'autres plateformes depuis 2 ans. Et donc, c'est aussi un enjeu pour Twitter comme pour Facebook de retrouver ses clients. C'est-à-dire que si Facebook et Twitter n'est plus le lieu du débat, c'est-à-dire l'endroit où peuvent s'exprimer toutes les positions politiques, eh bien ils y perdent quelque chose. Il faut quand même rappeler quelque chose pour vos auditeurs, c'est que c'est pas parce que Facebook a réinstallé Monsieur Trump sur son réseau que Monsieur Trump va y retourner. En l'occurrence, il est sur Twitter depuis 2 mois, il n'a toujours pas fait de tweet. Pourquoi? Eh bien parce qu'il a un accord d'exclusivité avec Truth Social, le réseau dont il est un peu le parrain et l'un des financeurs. Il a 6 heures d'exclusivité avec ses réseaux. 6 heures, ça vous semble très court, mais dans l'esprit de Twitter et de Facebook, c'est une éternité. Et donc pendant 6 heures, à chaque fois que Donald Trump s'exprime, il doit donner la primeur de ses messages à Truth Social. Donc, est-ce qu'il va vraiment retourner sur ces plateformes? On n'en est pas certain. En tout cas, ce qu'on constate, c'est que ces plateformes qui avaient plutôt une image un peu libérale, un peu de gauche, un peu progressiste, eh bien, elles vont désormais être obligées d'aller chercher des courants réactionnaires, des personnalités beaucoup plus controversées, parce que comme elles ont quitté les plateformes, eh bien, les followers, les gens qui apprécient ces discours-là, s'en vont aussi.
D'accord.
Et donc, il y a un enjeu économique pour les plateformes à récupérer tous ces discours.
Catherine Gentil, le communiqué de Meta promet que si l'ex-président publie à nouveau des contenus qui incitent à la violence, je cite, « la publication sera retirée et il sera suspendu entre 1 mois et 2 ans en fonction de la gravité de l'infraction. Croyez-vous à cette menace ? Si à 2 jours d'une élection, Trump conteste d'avance les résultats, ils vont vraiment le suspendre ?»
Oui, je pense qu'ils l'ont déjà fait une fois et qu'ils pourraient le refaire, hein, parce qu'effectivement, ça, c'est la limite, c'est vraiment la ligne rouge. Pour tout ce qu'il pourra dire avant, évidemment, il pourra s'exprimer librement, mais si, de nouveau, il commence à contester le résultat des élections, qu'il appelle à des manifestations et éventuellement à retourner au Capitole, évidemment qu'il sera suspendu, et je pense plutôt 2 ans qu'un mois. Donc, il est en liberté surveillée, pourrait-on dire, sur Twitter, Instagram et Facebook. Hein. Mais ce qui lui servira aussi d'ailleurs à récolter de l'argent pour sa campagne électorale, hein. C'est pas seulement le fait de s'exprimer et l'intérêt de revenir sur ses réseaux sociaux pour lui. C'est un moyen aussi de pouvoir collecter de l'argent pour entreprendre la prochaine présidentielle où on risque de se retrouver avec Donald Trump qui aura 78 ans, je crois, et Joe Biden 82. Hein. Ça, c'est accessoire, mais le renouvellement de la classe politique américaine, il serait peut-être temps d'y penser. Hein.
Au-delà de la dimension politique,
est-ce qu'il y a une dimension business? Le retour de Trump, c'est un enjeu économique pour Facebook et Twitter ou pas? Alors que c'est en tout cas un enjeu politique pour Trump, est-ce qu'ils peuvent se priver de ce produit d'appel? Meta et Twitter, on le sait, sont en difficulté financière. Début novembre 2022, en l'espace de quelques jours, Twitter a annoncé le licenciement de 7700 salariés et Meta de 11 000. Il y a aussi cette dimension-là à prendre en compte?
Il y a bien sûr cette dimension-là. Et puis il y a une autre dimension, c'est qu'à partir du moment où Donald Trump annonce qu'il va être candidat à la présidentielle, vous imaginez qu'on ne peut pas se priver quand même de la parole d'un des candidats qui pourrait redevenir président des États-Unis d'Amérique. Ce serait complètement paradoxal dans un pays où, dans la Constitution, il est inscrit le droit à la liberté d'expression. Et pour aux États-Unis, alors évidemment, pour nous, c'est très choquant, mais vous pouvez avoir des propos, justement, de nazis, enfin, les pires choses. Vous pouvez les dire à un endroit ou à un autre parce que, justement, c'est dans la Constitution et qu'on n'a pas le droit de vous interdire de vous exprimer. Donc, vous imaginez, pour un ancien président des États-Unis qui est peut-être un futur président des États-Unis, lui interdire la parole en Amérique, ça ne peut pas durer très longtemps. Et même en termes de démocratie, est-ce que vous imaginez un pays où un candidat à la présidentielle n'aurait pas le droit de s'exprimer sur certaines plateformes? C'est inimaginable.
C'est inimaginable pour vous également, Thomas Huchon, ça sera ma dernière question.
Oui, c'est inimaginable. Et je pense que vous avez raison de poser la question du business. Donald Trump, durant sa campagne de 2020, c'est plus de 100 millions de dollars investis en publicité ciblée sur Facebook. Donc tout ça, c'est aussi une histoire de gros sous. C'est aussi une histoire, comme l'a rappelé Catherine, d'avoir la pluralité totale des idées politiques aux États-Unis, où ils ont une vision des choses très différente de la nôtre. On verra ce que ça va donner. En tout cas, pour l'instant, deux mois après, il n'a toujours pas refait de tweet. Combien de temps mettra-t-il à faire une publication sur Facebook ou un reel sur Insta, et ben peut-être qu'on sera là pour en parler quand ça arrive.
Quel teaser, on va vous réinviter tous les deux. Merci beaucoup Catherine Gentil, je rappelle que vous êtes éditorialiste internationale sur TF1 et LCI. Thomas Huchon, je rappelle, vous êtes journaliste d'investigation, spécialiste des fake news. On peut retrouver votre format court Conspiration sur LCP, c'est le canal 13 de la TNT, votre livre anti-fake news en librairie. Et on salue la petite Isée après avoir salué le petit Achille. Merci d'avoir été avec nous en direct dans un instant.